Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Salut à tous, c'est l'heure de Terre débattue, votre podcast quotidien pendant Roland-Garros. Et ça y est, on connaît la championne des internationaux de France avec la victoire de Barbora Krejčíková en finale dames. Ce sera l'objet de notre débat du jour et pour en parler, on accueille aujourd'hui Camille Pin, Bertrand Milliard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois.
Salut Adrien.
Salut Adrien. Victoire annoncée, bien sûr.
On en reparlera, Bertrand. Ils fanfaronnent déjà. Après avoir échangé sur cette finale, nous enchaînerons avec la question qui fâche. Tsitsipas a-t-il déjà, lui, joué sa finale? Sans oublier la stat de Je 7 et Mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires, et l'affiche de dimanche avec tout ce qu'il faut savoir sur la finale. Messieurs, Terre débattue, c'est parti. Le débat du jour concerne la finale dames remportée par Barbora Krejčíková face à Anastasia Pavlyuchenkova. 6-1, 2-6, 6-4, une finale qui a duré un petit peu moins de 2 heures. Et pourtant, on a bien cru que ça allait être vite plié après le gain du premier set 6-1 par Barbora Krejčíková. Et puis, bah voilà, il y a une deuxième manche qui a été complètement différente. Et puis, ce troisième set. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous retenez de cette finale, Camille?
Tout simplement, tout ce qu'on avait évoqué hier, à savoir la gestion des émotions plus compliquée chez Pavlyuchenkova, on l'a vu dans la première manche. Elle est passée complètement à côté avant de se remettre carrément en selle. On a noté parfois peut-être la faiblesse physique du fait qu'elle ait beaucoup joué Krejčíková. Moi, c'était ma crainte, c'est que le fait qu'elle soit en finale du double, qu'elle ait gagné Strasbourg, que finalement, sur un moment comme ça, émotion, où on brûle beaucoup plus de calories sur ces moments à émotion et que si vous arrivez déjà un peu fatigué, c'est compliqué de le gérer. Donc moi, j'avais un petit bémol, pas sur sa gestion mentale à la tchèque, mais sur sa gestion physique. On l'a senti dans la seconde manche qu'elle a commencé à être beaucoup moins mobile, à être moins agressive. On s'est dit, ça y est, elle n'a plus de jus. Eh bien, c'est Pavlyuchenkova qui va sûrement l'emporter. Et on a aussi débattu du fait que la tchèque était exceptionnelle dans les moments importants. C'est ce qu'on a vu en fin de troisième manche pour aller s'imposer. Donc, elles nous ont montré toutes leurs caractéristiques à toutes les deux. Mais jusqu'à le milieu de la troisième manche, honnêtement, on ne savait pas dans quel camp ça allait, la coupe allait atterrir. Donc, ça a été très intéressant de voir de tous ces petits détails dont on a parlé, lequel allait prendre le pas. Eh bien, ça a été la force mentale de Krejčíková, au-delà de sa fatigue physique, qui a été exceptionnelle sur la fin. Elle a pris en main, même si elle a eu un petit peu mal sur certaines balles de match. Mais ça, ce sont des petits points clés où l'émotion déborde. Mais sur l'ensemble de la troisième manche, c'est elle qui a été patronne et c'est elle qui est allée se pousser pour aller chercher cette victoire. Elle la mérite bien.
Une Pavlyuchenkova un peu diminuée aussi, peut-être. On l'a vu à la fin du deuxième set, elle a fait appel au kiné, elle a été strappée. Ça a pu jouer un peu ça aussi, messieurs?
Oui et non. Je pense que oui, effectivement, il y a aussi parfois des blessures liées au mental. Hein. Je pense qu'il y avait tellement de tension des deux côtés que Pavlyuchenkova a ressenti peut-être un peu plus sa douleur. Elle avait déjà, puisqu'elle était déjà strappée à ce niveau-là avant. Donc, ça a pu jouer, je n'ai pas l'impression, parce que quand elle est revenue après le temps mort.
Elle a briqué tout de suite.
Elle a briqué tout de suite, elle a fait un très bon jeu. Je n'ai pas senti que physiquement, elle était en difficulté sur la fin. Ce qui était, la difficulté a été de gérer, effectivement, comme l'a dit Camille, les émotions. Moi, ce qui me surprend plus dans cette fin de match, c'est que c'est au moment où Krejčíková a semblé la plus nerveuse qu'en fait, elle s'est mise à jouer son meilleur tennis. C'est-à-dire que. Ouais. Il avait fait deux jeux blancs de suite qui ont été extraordinaires et à la fin, il jouait vraiment très très bien. Et c'était le meilleur moment du match en termes de niveau de jeu. Ça a clairement été la fin avec vraiment du très beau tennis, très belle zone, beaucoup de fluidité dans ses coups, beaucoup de lucidité aussi.
Des amortis au bon moment.
Des amortis, des contre-pieds, des choses qu'on n'a pas vu tellement sur le reste du match. Donc ça m'a surpris parce qu'au moment où on n'avait pas vu tellement invectiver son coach, se retourner pour engueuler son entraîneur ou sur les matchs précédents, être comme ça aussi nerveuse, montrer autant sa nervosité. Au contraire, on avait dit que c'était Sakkari qui l'avait fait en demi-finale. Bah là, elle l'a fait, je me suis dit, oulala, c'est pas bon, elle va craquer mentalement, et finalement, bah non. Ça l'a relâché peut-être finalement d'extérioriser cette peur, enfin cette angoisse qu'elle avait en elle, cette tension, et du coup, elle a réussi à beaucoup mieux finir que Pavlyuchenkova, et je trouve que c'est une victoire. Mérité sur l'ensemble du match.
Laurent. Ah,
puis c'est elle qui dictait le jeu à la fin. Vraiment, tous les derniers jeux, tous les échanges, c'est elle qui fait le jeu. Pavlyuchenkova subit. Alors oui, il y avait de la tension. Elle fait une double faute, notamment au moment où elle sert pour le match. Mais une fois qu'elle avait réussi à mettre en jeu, j'ai le souvenir d'un point, notamment pour s'offrir deux nouvelles balles de match à 30-15, où elle joue très bien en décalage coup droit. Voilà. Donc elle était la patronne sur le court à ce moment-là. Et on avait un peu l'impression que Pavlyuchenkova ne pouvait plus gagner ce match. Alors Krejcikova aurait pu le perdre si elle s'était décomposée, mais elle est restée quand même assez lucide à la fin. Et pourtant, je pense qu'il y avait beaucoup de tension, ce qu'on l'a vu sur la balle de match.
Mais oui, oui.
Son visage, c'est extraordinaire. Elle ne sourit pas. Alors la balle de match est un petit peu bizarre parce que c'est une balle un peu longue de Pavlyuchenkova qui est annoncée faute avec un tout petit temps de retard. Mais c'était le masque qu'elle avait. Elle avait encore le masque de la tension.
Elle n'a pas
de la crispation
réussi à exulter tellement elle était crispée, je pense.
Non. Exactement. Non. Et c'est vraiment quelques minutes après, juste avant le début de la cérémonie, où il y a les larmes qui sont montées. On a senti qu'elle réalisait vraiment. Mais je l'ai trouvée quand même, globalement, aujourd'hui, et même sur les trois derniers matchs, d'une solidité. Enfin, elle gagne trois matchs compliqués, accrochés. Et elle a été quand même assez bluffante à ce niveau-là. Pour une joueuse qui est aussi peu expérimentée, c'est impressionnant.
Et je pense que le double l'a aidé quand même. Hein, les nombreuses finales qu'elle a jouées. Alors, il y a un petit peu moins de stress, mais quand même, c'est une finale de Grand Chelem. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux en double également. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de points. Donc, elle en a quand même joué 5, parce qu'elle a gagné 3 mixtes et 2
en double.
C'est autre chose, mais je pense que ça…
Mais
c'est
oui,
une autre échelle, mais c'est une petite indication pour elle de ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va. Et ça n'a pas empêché d'être nerveuse à la fin, hein, mais le fait qu'elle ait réussi à rehausser alors qu'elle était stressée, ça, c'est une vraie prouesse pour un athlète de haut niveau. Je dirais que c'est ce qui fait la différence et c'est pourquoi elle gagne ce tournoi aussi.
Mais ce qui est marrant, c'est que les larmes sont montées, comme tu l'as dit, Laurent, après. Il y a eu plusieurs séquences. Il y a eu effectivement. Le choc tellement important sur la balle de match qu'elle ne réalise pas et que donc il n'y a pas d'extériorisation, c'est toujours un peu gênant quand on regarde une finale de Grand Chelem.
Ça rappelle peut-être ce qui lui est arrivé en demi-finale aussi.
Un peu comme Djokovic quand il avait gagné le ballon en 2019 pour d'autres raisons, mais enfin bon voilà, quand il n'y a pas d'extériorisation, ou Medvedev quand il gagne.
C'était plus maîtrisé, je pense, chez Djokovic.
Voilà. Oui, ou Medvedev, on sait qu'il est comme ça aussi. Mais c'est quand même bizarre. Derrière, il y a eu l'émotion. Il y a eu une grosse émotion quand elle a parlé d'abord au micro de Fabrice Santoro, donc au public, parce qu'elle a évoqué Yana Novotna, avec qui elle a longtemps travaillé, disparue, on le rappelle, en 2017, l'ancienne championne de Wimbledon. Et c'était un peu son mentor. Donc, c'était très émouvant de ce qu'elle a pu dire au public concernant Yana Novotna. Donc, elle s'est lâchée une première fois et elle s'est lâchée une deuxième fois, mais cette fois avec le sourire. Et ça, c'était vraiment sympa. Le moment le plus sympa, je pense, dans son discours, dans la cérémonie, en évoquant Justine Hénin, qu'elle a rencontrée sur le plateau télé hier. Et là, par contre, le sourire est venu et elle a parlé comme une petite fille de 6-7 ans. Et là, c'était super sympa. Elle a dit c'est incroyable, je l'ai vue en vrai, j'ai pu la toucher, elle connaissait mon nom, elle savait que je jouais en simple et en double, c'est incroyable. Je ne pensais jamais qu'elle connaîtrait mon nom, alors qu'elle est au final le Roland Garros. C'est un rêve qui se réalise. Je la gardais dans la cuisine avec ma mère quand j'étais petite. Je regardais ces matchs contre Vénus, contre Serena, contre Mauresmo. Et c'est incroyable d'avoir rencontré un vrai. Et là, elle est redevenue la petite fille avec la banane. Et c'était vraiment sympa. Parce
avec la coupe dans les bras, comme ça.
La coupe dans les bras, oui. Avant, elle n'avait pas vu tellement ni rigoler, ni montrer sa joie. Donc, c'était une joie un peu enfantine retrouvée qui était sympa.
Et l'histoire avec Novotna est incroyable parce qu'elle a raconté, c'était en 2013, donc c'était plus une enfant, elle avait 18 ans. Et elle est allée avec ses parents au bluff chez Novotna. Elle s'est pointée chez elle pour lui parler et Novotna a un peu halluciné de voir ces gens arriver dans son jardin. Et voilà, elle a discuté avec elle et elle lui a dit « Je suis une jeune joueuse tchèque, j'essaye de percer ». Elle était à l'époque, elle n'était même pas dans les 300 premières mondiales, elle débutait tout juste sa carrière. Et elle avait déjà un petit peu cette étiquette de joueuse de double qu'on voulait lui coller. Et elle était convaincue de pouvoir faire quelque chose en simple. Elle a beaucoup parlé avec Novotna et voilà, elle a bien fait d'y aller au bluff parce qu'effectivement, Novotna l'a pris un peu sous son aile. Elle a beaucoup conseillé, elle a beaucoup aidé. Et il y a eu un moment très, très fort aussi dans la cérémonie quand elle a dit, elle en avait déjà parlé, mais le fait de le dire à ce moment-là, que les derniers mots que Novotna lui a dit, c'est « Fais-toi plaisir, éclate-toi et fais tout pour gagner un tournoi du Grand Chelem ». Dans le contexte de cette cérémonie avec la coupe sous le bras, c'était quand même vraiment très, très émouvant. Et on sent qu'elle est attachée à tout ça, parce qu'elle a parlé aussi d'Yann Codes. C'était Martina Navratilova
qui était là,
aussi,
en plus, hein.
Qui était là pour remettre le trophée aujourd'hui. Donc c'était, on parlait de la tradition du tennis tchèque ou tchécoslovaque avant. On a ressenti tout ça vraiment aujourd'hui.
Mais Kodesh était là aussi. Kodesh et Navratilova.
Oui, Yann Kodesh, tout à fait. Ouais. Kodesh Navratilova était là. Ouais. Elle dit après, Monsieur Kodesh d'ailleurs, c'est marrant.
Monsieur Kodesh, oui, bah, il a raison. C'est un monsieur. Après, quelque chose d'étonnant. Alors là, je vais m'adresser à l'historien du tennis qui est Laurent. C'est notre historien à nous. Si je ne dis pas de bêtises, Świątek l'an dernier. Quand elle gagne, c'est son premier titre dans sa carrière, le premier titre de sa carrière. Et là, c'est le deuxième titre de sa carrière après Strasbourg, donc il y a quelques semaines. On a une multiplicité maintenant de joueuses ou de joueurs, mais plutôt les joueurs, c'est plus rare, qui viennent gagner, alors je ne parle pas forcément des grands chelems pour les joueurs, mais pour les joueuses qui viennent gagner quasiment un grand chelem où c'est leur premier titre. J'ai l'impression quand même, Laurent, c'était pas rarement le cas avant. C'était quand même des joueuses aguerries qui avaient déjà pas mal de titres, qui venaient gagner les titres majeurs.
Oui, puis même quand on avait des... Bon, Świątek et Krejcikova n'ont pas le même âge, non plus Świątek.
Non, elle a 25 ans, Krejcikova.
C'était une toute jeune joueuse, mais on avait des très jeunes joueuses qui gagnaient. On a eu Céleste Sanchez qui gagnait à Roland-Garros à 16 ans. Ingis qui a gagné en Australie son premier Grand Chelem, pareil, je crois qu'elle avait 16 ans. Ouais. Mais c'était des joueuses qui étaient déjà très installées malgré leur très jeune âge. Elles étaient déjà dans le top 10, voire le top 5. Elles étaient parmi les favorites. Donc, c'est vraiment incomparable. Mais je pense que le cas de Krejcikova est quand même totalement unique. On parle d'une joueuse. Le précédent Roland-Garros a eu lieu il y a 8 mois. Mmh. Elle n'était pas dans les 100 premières mondiales. Elle n'avait jamais été dans le top 100 à ce moment-là. Si avant le Roland-Garros de l'année dernière, quelqu'un avait dit que l'année prochaine, Barbora Krejcikova allait gagner Roland-Garros, je pense que ce serait apparu vraiment complètement incroyable à tout le monde. Donc, son cas est vraiment, vraiment à part, je pense. Mais c'est aussi assez révélateur. On en a parlé 10 fois pendant cette quinzaine de ce tennis féminin qui, où à peu près tout semble possible pour peu qu'on ait peu de talent, de la confiance, du physique.
Moi, je pense que la différence se fait sur la gestion des émotions, sur les moments importants, parce qu'elles jouent toutes très bien au tennis. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence sur ces gros tournois, et que les joueuses moins expérimentées arrivent à développer des capacités mentales qu'avant, on ne pouvait acquérir qu'avec de l'expérience. On a l'impression qu'aujourd'hui, peut-être grâce à un travail mental plus poussé qu'il y a 15 ans, elles arrivent sans expérience à les gérer. Et moi, je crois beaucoup au travail. C'est comme le physique, il y a moins de blessés parce qu'il y a une préparation physique où les joueurs jouent plus longtemps parce que depuis 15-20 ans, il y a un protocole qui est mis en place. Et peut-être que toutes ces jeunes joueuses, peut-être qu'on a parlé voyage avec son préparateur mental, parce qu'avant, on disait que ce n'est pas possible sur un premier titre de gérer comme ça. Et donc, moi, je crois en l'évolution du tennis sur le plan mental. Les joueuses se préparent aussi bien mentalement que physiquement. Et à l'inverse, les meilleures joueuses actuelles ont laissé montrer des faiblesses, on en a parlé, qui sont humaines. Enfin, on ne va pas leur en vouloir. C'est ce qui fait aussi la beauté de la compétition. Mais il n'y en a pas une qui se détache mentalement pour réellement être au-dessus des autres et remporter beaucoup de titres d'affilée en étant d'une constance absolue mentalement. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a, une espèce d'équilibre qui est en train de s'installer dans le tennis féminin.
Il y a eu un déclic quand même cette saison pour Krejcikova en simple, parce que certes, il y a eu Strasbourg, mais avant ça, il y avait eu Dubaï. Et Dubaï, qui est un gros tournoi quand même chez les filles, il y a toutes les meilleures. Elle fait finale contre Muguruza. Et ça m'avait beaucoup surpris déjà. Je me disais, tiens, Krejcikova en finale d'un tournoi aussi important, c'est surprenant. Eh bien, peut-être que c'est peut-être ce tournoi, tout simplement le déclic où elle prend conscience qu'elle est capable en simple de faire de bons résultats. Mais dans la foulée, ça enchaîne. Parce que gagner à Strasbourg juste avant Roland, et dans la foulée, gagner Roland, c'est monstrueux. Ça enchaîne. Ça augure peut-être une deuxième partie de carrière pour elle différente. Je pense qu'elle a mis quand même l'accent sur le double beaucoup, effectivement, jusqu'à maintenant. Bon, là, quand on a gagné un grand chelem en simple, qu'on rentre en top 15 mondial, forcément qu'on va peut-être s'atteler un peu plus au simple et pour se forger un palmarès plus important. Mais c'est étonnant, comme l'a dit Laurent, c'est quand même assez rare finalement. On a eu des joueurs parfois qui arrivaient très jeunes. On espère que ce ne sera pas un feu de paille, mais c'est vrai que c'est étonnant. À 25 ans, quand on a déjà une carrière solide en double, de devenir d'un coup aussi une très bonne joueuse de simple. Dans le même ordre d'idées, je pense un peu à Sam Stosur, l'Australienne, qui était d'abord une très bonne joueuse de double pendant longtemps, plutôt une spécialiste de double, qui était moyenne en simple, qui n'était pas extraordinaire, puis qui a pris confiance petit à petit grâce à son physique, grâce à son service, qui s'est construite aussi une carrière petit à petit de joueuse de simple pour aller quand même finir par gagner l'US Open en simple, ce qui n'est pas rien, contre Serena Williams en plus en finale. Donc voilà, c'est un peu c'est la comparaison que j'ai envie de faire entre une joueuse qui a d'abord été une joueuse de double avant de devenir une excellente joueuse de simple.
On passe à la stat du jour, si ça vous convient. Ouais. On va continuer à parler de Barbora Krejcikova. La stat de Josette et Matt, le compte Twitter dont nous sommes partenaires pendant Roland-Garros et même tout au long de la saison de tennis, cette stat concerne la victoire de Barbora Krejcikova avec une stat intéressante. Pour la troisième fois depuis le début de l'ère Open, une joueuse a remporté Roland après avoir sauvé au moins une balle de match sur son parcours. Donc Krejcikova, c'était face à Sakkari, on s'en rappelle, en demi. Auparavant, c'était Justine Henin, en 2005, qui avait sauvé deux balles de match face à Kuznetsova en huitième. Et Miskina, l'année précédente, en 2004, une balle sauvée face à Kuznetsova également en huitième. Ça montre la solidité quand même de cette joueuse.
Il y a eu en Australie, Adrien, juste, alors c'est pas Roland Garros, ouais. Mais en Australie, il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, Lina, qui avait sauvé, je crois, trois balles de match contre Safarova en tout début de tournoi, premier tour ou deuxième tour, et qui ensuite a été au bout pour gagner le titre. Mais ça arrive souvent plutôt dans les premiers tours.
Ouais, là, en fait,
ça confirme, Adrien, ce qu'on disait sur ses capacités à se pousser dans des moments de pression et d'être encore plus agressive. Et ces balles de match, cette balle de match sauvée, ce match face à Sakkari, j'ai l'impression que c'était ce match-là lui a permis derrière de remporter cette finale face à Pavlyuchenkova. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment confiance dans ce qu'elle pouvait produire, même dos au mur. Et donc, ce n'est pas surprenant finalement.
On enchaîne avec la question qui fâche qui va concerner Stefanos Tsitsipas.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
La question qui fâche concerne donc Stefanos Tsitsipas. Avec cette question, a-t-il déjà joué sa finale? On l'a vu très ému hein, à l'issue de sa demi-finale gagnée face à Alexander Zverev, les larmes aux yeux. Il était très fier de représenter son pays et de voir qu'un Grec pouvait atteindre une finale de Grand Chelem. La quinzaine, de toute façon, est d'ores et déjà réussie pour lui. Hein, atteindre sa première finale de Grand Chelem, c'est un bel accomplissement. Est-ce que c'est fini, c'est terminé, Tsitsipas, c'est joué, demain il va perdre, d'un côté c'est Djoko qui va soulever le trophée. L'histoire elle est presque écrite, c'est peut-être presque trop écrit, j'ai envie de dire, Laurent.
J'espère pas, non, mais c'est vrai que c'est un peu la première chose qu'on s'est dit quand on a vu cette image où il est vraiment pris par les larmes après sa victoire contre Zverev au moment de l'interview sur le court. Le premier truc qu'on s'est dit, c'est oula, est-ce que c'est pas une mauvaise chose quelque part? On comprend évidemment l'émotion, c'est normal. Il a 22 ans, c'est sa première fois qu'il se qualifie pour une finale de Grand Chelem. En plus, il le dit, Roland-Garros, c'est le tournoi de son enfance, celui qu'il regardait tout le temps. Il a grandi sur terre battue, donc c'est le tournoi qui le faisait rêver. Mais c'est vrai qu'on avait envie de lui dire, Stefano, c'est le match le plus important, c'est dans 2 jours, c'est pas maintenant. Évidemment, il le sait, il n'y a pas besoin de lui dire. Après, il a un petit peu balayé ça lors de sa conférence de presse où il a tout de suite dit « Non, non, mais l'émotion, c'est une chose, mais j'ai fait qu'un pas et l'autre pas le plus important, c'est dans 2 jours. » Donc, après, ce sont des mots. De toute façon, ça va être sa première finale de Grand Chelem et personne ne peut savoir comment il va se réagir et se conduire dans une finale de Grand Chelem. Nous, on ne le sait pas, mais même lui, il ne le sait pas. Parce que pour un joueur de très haut niveau comme ça, c'est une situation extrême. Et comme dans toutes les situations extrêmes dans la vie, on sait comment on réagit une fois qu'on y est confronté. Donc, on verra dimanche. Tous les cas de figure existent. Le plus souvent, c'est que vous déjouez un petit peu parce que vous êtes tendu, parce que c'est impressionnant. Là, ce le sera encore plus parce qu'en face de lui, il a un joueur qui est monstrueux, mais on l'a vu avec Dominic Thiem et Sacha Zverev à l'US Open, l'inverse peut être vrai aussi. Vous avez un joueur, disons, à peu près de votre envergure, qui est dans la même situation que vous, qui n'a jamais gagné le Grand Chelem non plus, et vous ne dites pas, là, je dois battre un géant du tennis, vous vous dites, je ne dois pas laisser passer Stokas parce que c'est peut-être la chance de ma vie. Donc, tous les cas de figure sont possibles, mais parfois, vous avez aussi des joueurs qui sont complètement libérés et que ça transcende. Mais ça, lui, comme nous, on aura la réponse seulement dimanche sur le Châtrier, pas avant.
Mais ce qui est sûr, c'est que ses larmes, bien sûr, il était ému, bien entendu, mais peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de soulagement pour lui, parce que je pense qu'une défaite face à Zverev, ça lui aurait fait très, très mal. Après, le danger, c'est de se dire inconsciemment, encore une fois, je suis arrivée en finale et je suis fière de moi. Et parce que ça, on a beau dire, mais non, je viens pour gagner le tournoi. Au fond de soi-même, parfois, on est quand même satisfait d'une performance en se disant, waouh, c'est déjà bien ce que j'ai fait. Et il faut qu'il dépasse ça vraiment dans son for intérieur pour se dire, non, mais en fait, moi, Tsitsipas, là, aujourd'hui, je peux aller battre. Et oui, je suis soulagée parce que c'est un match que je ne devais pas perdre. Et je pense que ça a été très dur pour lui quand il perd les deux sets et pour jouer un cinquième. Il a bien géré mentalement, mais je pense qu'il était très soulagé de ce match. Après, le Djoko face à Nadal, honnêtement, il perd contre personne s'il joue ce niveau de jeu. Je vois
Eh oui, mais
pas.
va-t-il jouer ce niveau de jeu?
Non,
Voilà
mais
la
voilà,
question.
on plébiscite Tsitsipas depuis le début. Il a rempli son contrat en se retrouvant face à Djoko, mais si Djoko joue le niveau qu'il a eu là, c'est quasiment impossible. En
Bien
revanche, est-ce
sûr.
qu'il va pouvoir le tenir? Il n'a pas joué comme ça de toute la quinzaine. Là, il va être complètement favori. Alors, il a l'habitude, Djoko, d'être favori
Il est
et
plus
de
nerveux côté les
valider.
favoris quand même, hein. Il est plus nerveux côté les favoris
Mais
que côté la preuve.
bien sûr. Donc, Tsitsipas, s'il se dit qu'il peut vraiment jouer son tennis à fond avec le plaisir d'être soulagé, il peut faire très mal aussi. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer.
Je suis d'accord avec Camille sur le fait que je crois que Tsitsipas avait gagné en 3-7 contre Zverev. Je ne suis pas sûr qu'il aurait pleuré sur le court. Je crois qu'il a eu très peur, notamment au début du cinquième, 0-40 sur son service dans le premier jeu. Ça a complètement tourné. Il se dit, c'est pas vrai, ce match, je l'avais en main. Je suis en passe peut-être de le perdre. Et il est à la limite au bord de la rupture à ce moment-là. Sauf ce jeu, on connaît la suite. Et derrière, effectivement, je pense que c'est un énorme soulagement qui peut engendrer en plus de l'émotion d'être en finale, cette réaction. Je ne crois pas que ce soit le fait qu'il joue sa finale avant la lettre. Maintenant, essayons de nous baser sur des précédents. J'en ai retenu trois. Thomas Johansson à l'Open d'Australie 2002 joue Marat Safin, quand même largement favori. Il passe pas du tout à côté de sa finale. Alors Safin, c'est pas Djokovic, hein, d'accord, mais il est quand même pas favori. Il fait un très bon match et il le gagne. Et pour parler de ceux qui ont joué vraiment le Big 3, c'est-à-dire les trois monstres, souvenons-nous de la finale de l'US Open 2009, Juan Martín del Potro, première finale, 20 ans. Roger Federer, le maître des lieux, il a gagné les 5 US Open précédents. Intouchable. Maintenant, c'est un break. Tout le monde dit, bon, pour Federer, facile. Sixième US Open, tranquille dans la foulée. Et on connaît la suite là aussi, Del Potro gagnant 5 en faisant un match énorme. Donc,
Elle était
et
incroyable
il
cette
avait
finale.
battu, j'ai battu Nadal en demi, je crois. Hein. Donc, il est quand même sur un exploit monumental et il ne baisse pas d'intensité en finale, au contraire. Et puis, plus récemment, même si ça commence déjà à dater un petit peu, Open d'Australie 2014, Stan Wawrinka, première finale de Grand Chelem face à Nadal. Alors certes, Nadal était blessé ce jour-là, s'est blessé, mais même en début de rencontre, même si Nadal était touché, Wawrinka joue le plomb, il était libéré justement d'être complètement outsider, et il fait un très gros match pour gagner lui aussi sa première finale. Donc, tout est possible. Tsitsipas, effectivement,
Il y a tous
il
les cas de
peut...
figure dans l'histoire du
Deux
tennis.
cas de figure. Djokovic a fait un match hier, tout le monde l'a dit. Hein. Vous avez lu un peu Twitter, vous avez regardé un peu la réaction des autres joueurs. C'est ça qui est fabuleux. Nous, à notre niveau, c'est normal. Les autres joueurs, c'est comme si eux étaient des joueurs amateurs. Ils ont dit, c'est pas le même sport, on a vu un truc là de dingue. Donc, il a joué à un niveau monumental pour gagner pour réussir cet exploit monumental aussi, qui est de battre Nadal à Roland-Garros au meilleur des cinq. 4h11, est-ce que face à un adversaire contre lequel il est favori, un tennis complètement différent, un joueur contre lequel il a eu du mal, rappelons-le quand même à Rome, 7-5 au troisième, il était complètement malmené, un set, un break aussi récemment, match qui s'est joué en 2 jours avec la pluie. La demi de l'année dernière, c'était
Ouais, qui
tendu,
était pas
hein,
simple non plus. Ouais.
5-7, il est remonté à 2-7 partout, donc les deux derniers sur terre battue sont quand même très serrés. Donc gestion des émotions très importante pour Tsitsipas, évidemment, mais pour Djokovic aussi, ultra favori, première possibilité d'être le premier à gagner tous les grands chelems 2 fois, possibilité de se rapprocher à une longueur de Nadal et Federer. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a énormément d'enjeux pour Novak Djokovic. Vous vous rendez compte, d'ici 3 semaines, 1 mois, il pourrait être revenu à hauteur des 2 autres. Donc attention, ce n'est pas la même configuration pour Djokovic que hier où Nadal est favori. Lui, il a eu du mal dans les tours précédents, on ne l'attend pas. Et puis il prend 5-0 au début de match et derrière, la démonstration. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est peut-être plus ouvert que ce que l'on croit aujourd'hui.
Ouais, Stefano, ça a donc toutes ses chances s'il arrive à se reconcentrer mentalement, s'il met ses émotions de côté, qu'il se dit j'ai un coup à jouer, comme a pu le faire Wawrinka, comme tu le rappelais, ou
Et
Del
il joue
Potro, et
un
qui peut
outsider, ouais, comme Del Potro. Ouais.
un outsider. On va se pencher davantage sur cette finale du jour dans l'affiche du jour, justement. L'affiche du jour concerne donc la finale de Roland-Garros entre Novak Djokovic, évidemment, et Stefanos Tsitsipas, le numéro 1 mondial contre le numéro 1 à la race, 5e mondial. C'est la 8e confrontation entre les deux hommes. Djokovic mène 5-2, pardon, ouais. 5-2. Djokovic mène 5-2. Ils se sont rencontrés trois fois sur Terre. Le Serbe a toujours gagné. On se rappelle de la dernière demi-finale, il y a 8 mois, à Roland-Garros, accroché en 5-7. Hein. Plus récemment, à Rome, en quart de finale, Djokovic s'est imposé également en 3-7, hein, 4-6, 7-5, 7-5. C'est souvent assez serré entre les deux. Est-ce que pour autant, on peut pas dire, on peut pas ne pas mettre Djokovic en favori, Camille?
Bien évidemment, vu ce qu'il a, vu qui il est, déjà juste l'homme, et vu ce qu'il a produit hier, là il est en train de dépasser tout ce qu'on pouvait imaginer de lui, tennistiquement parlant. Alors on se dit effectivement peut-être que Tsitsipas est l'homme aujourd'hui qui va peut-être le faire douter sur. Alors il y avait Nadal, mais il n'a pas réussi jusqu'au bout. Et on se dit, à part Nadal, qui pouvait éventuellement en finale, c'était Tsitsipas, on en a parlé. Donc ça, c'est excitant pour cette finale de demain. En revanche, on est obligé de se dire que, compte tenu du monstre que c'est, bien sûr qu'il est favori. Mais après, on a envie de voir comment il va gérer, est-ce qu'il va dérouler, est-ce que ça va être une boucherie, est-ce que nous, on ne pense pas, voilà, on en discute entre nous. Mais bien sûr qu'il est largement favori sur cette finale, Adrien. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes compères, mais...
celui qui ne donne pas Djokovic favori après le match d'hier,
a perdu la raison,
selon toute vraisemblance. Évidemment qu'il est favori.
C'est vrai que quand il y a eu le tirage au sort, on s'est tous dit, on a tous regardé, la demi Nadal Djokovic, c'est comme on dit la formule éculée, la finale avant l'heure. Donc derrière, c'est censé dérouler.
Oui, mais oui et non.
Je ne suis pas d'accord. Oui, évidemment, c'était les deux grands favoris du tournoi. Mais pour moi, on n'était pas tout à fait dans la même configuration qu'avant la finale 2013, où il y avait déjà Nadal et Djoko qui s'affrontaient en demi. Mais en face, c'est vraiment sans leur manquer de respect. Moi, j'avais l'autre demi-finale, c'était entre David Ferrer et Joe Wilfried Tsonga. J'avais beaucoup de mal à imaginer ou Joe ou David être capable de battre l'un des deux en finale. Là, je ne dis pas que Tsitsipas va gagner, mais je pense que je vois davantage de matchs. Moi, il y a deux choses que je voudrais dire sur cette finale. La première, c'est que c'est toujours la même chose quand on a un membre de Big Three comme ça qui compte 18, 19, 20 titres du Grand Chelem face à un novice, un jeune. C'est que pour moi, Djokovic a les clés de la finale, mais Tsitsipas a les clés de l'intérêt de la finale. C'est exactement la même configuration qu'avant la finale de l'US Open 2019 entre Nadal et Medvedev. C'est-à-dire qu'on se dit, si Nadal joue à 100%, s'il est à son meilleur niveau, il doit gagner. Mais c'est Medvedev qui avait les clés de l'intérêt parce que pour donner une dimension épique à cette finale, il fallait qu'il soit plus qu'à son meilleur niveau, il fallait qu'il aille au-delà de ce qu'il avait déjà montré. C'est ce qu'il avait fait et il a été tout près d'y gagner. Pour moi, là, c'est un peu pareil. On l'a dit, si Djoko il joue au même niveau, avec la même intensité, la même agressivité que ce qu'il a fait contre Nadal en demi-finale, ou alors il faut que Tsitsipas nous montre des choses qu'il ne nous a encore jamais montrées. Et parfois, ça arrive. Mais en revanche, si Djoko est à son meilleur niveau, pour qu'il y ait un match intéressant, il faudra que Stefanos Tsitsipas soit vraiment très très fort, sinon ça risque de faire 3-7. Et la deuxième chose, on n'en a pas parlé, vous avez dit que pour Djokovic, c'était moins confortable aussi d'appréhender cette finale que la demi. Et puis il y a autre chose, c'est qu'il a battu Rafael Nadal pour la deuxième fois à Roland-Garros. La première fois qu'il a fait ça, il n'a pas gagné le tournoi. Et il pourrait se retrouver dans une situation incroyablement paradoxale d'être l'homme qui a infligé deux des trois défaites de Rafael Nadal à Roland-Garros, c'est en 3-7 gagnant sur terre, et à chaque fois de ne pas gagner le titre au bout. Et ça, ce serait quand même...
Sachant que le troisième homme non plus l'avait pas gagné, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Söderling n'avait pas gagné non plus le tournoi d'ailleurs.
Oui, Söderling n'est pas Novak Djokovic. Disons que Söderling, il avait encore du monde derrière, dont Roger Federer. Djokovic, vraiment, en 2015, on pensait que c'était pas une autoroute, mais qu'il allait le gagner, ce tournoi. Et donc, ce serait quand même incroyable qu'il réussisse deux fois à battre Nadal pour ne pas soulever la Coupe des Mousquetaires.
Je pense qu'il peut y penser.
Je pense que oui, ils sont dans la course au record, les gars. Hein. Donc c'est vraiment historique comme match. Hein. C'est s'il devient
les records,
le premier.
Oui, mais le fait qu'il n'avait pas gagné la fois où il l'a battu.
Ah, tu vois, ça, je sais pas.
Ouais. C'est, peut-être inconsciemment. Mais en tout cas, Ivan Isevich disait, c'est plus confortable pour Novak de jouer Rafa avant la finale. Il avait raison, mais sauf que une fois que tu as fait ça, tu n'as toujours pas gagné le tournoi quand tu le joues avant la finale. C'est ce
Et
qui
t'as
rend
laissé
sa
quelques
tâche plus
plumes quand même,
compliquée.
parce que là, le
Exactement.
match qu'il a fait.
Émotionnellement et
Émotionnellement
physiquement,
aussi, ouais.
émotionnellement et physiquement, il a quand même forcément laissé un peu de gomme. Donc, est-ce que ça pèsera? Je n'en sais rien, on le saura demain. Mais quand même, voilà, il vient de faire, il l'a dit, c'est mon plus grand match à Roland-Garros. On a dit Tsitsipas, c'est ce qu'il a joué sa finale. Novak, lui, nous dit qu'il a joué le plus grand match de sa carrière à Roland, un des matchs qui est dans le top 3 de sa carrière. Ça veut quand même dire quelque chose quand on a son palmarès et son parcours. Mais sauf que pour l'instant, il n'a rien gagné ici, enfin, cette année. Il a encore un match à gagner. Donc, ce n'est pas évident non plus à gérer pour lui, à mon avis.
Ça me fait penser quelque chose, Laurent, ce que tu disais, que l'autre, l'adversaire de Novak, aura les clés pour une finale réussie, entre guillemets. Je repense à ce match de Djoko en huitième contre Musetti, qui l'a quand même gêné pendant 2 sets. Si Tsitsipas arrive à gêner Djoko pendant 1-2 sets, ça peut instiller le doute aussi dans
Ah
la tête du
mais
Serbe.
Adri, le Djoko des deux premiers sets contre
On est d'accord.
Musetti, je pense que Tsitsipas peut vraiment l'inquiéter, ça, il n'y a pas de doute.
Et au-delà de ça, le
Donc,
Djoko, le Tsitsipas de Rome, il peut aussi battre le Djoko de Rome du premier set et demi. Hein. Si ce match n'est pas interrompu par la pluie, je pense que ça peut faire 2 petits sets. Alors, vraiment, ce n'était pas du tout le même niveau de jeu. En revanche, de la part de Djokovic, il était très très loin du niveau qu'il a
c'est
montré
sûr.
hier. Mais d'ailleurs, sur l'intégralité du tournoi, même en finale, hein, il a perdu contre Nadal en n'étant pas exceptionnel. Donc, mais on ne sait pas comment il va jouer demain. On ne sait pas. On ne sait pas comment il va aborder cette finale. Voilà, refaire le même match que face à Nadal, c'est quand même pas simple. En plus, ce n'est pas le même genre de tennis. Bon, ils ne se connaissent pas autant, etc. Mais s'il aborde le match un peu tendu, qu'il démarre son match comme il l'a fait à Rome contre Tsitsipas, qui lui arriverait à jouer, à se libérer en début de rencontre, bah, il peut être vite, rapidement en difficulté. Après, voilà, Wawrinka avait aussi ce revers, et ses pilonnages en revers à longue ligne le jour de cette finale en 2015. Il avait fait un match, il n'avait pas joué à 120%, il avait joué à 200%. Enfin, Stan Wawrinka, il a joué dans des finales de Grand Chelem, il a eu des niveaux stratosphériques. Et ce jour-là, c'était démentiel. Moi, je me souviens, je hurlais sur chaque point quasiment, tellement c'était dingue. Donc, il faut
Est-ce que
quand
le grec n'est
même.
pas capable de faire ça?
Bah,
Sur un... On le sent capable de
mais...
faire ça, non?
Bah, 2 ans avant, tu aurais imaginé que Wawrinka soit capable de faire ça en finale de Grand Chelem?
Non, pas
Non.
du tout. Non,
Donc,
par contre, ce n'était
on
pas
ne
sa
sait
première.
pas.
Il en avait déjà gagné hein, quand
Oui,
même,
mais
à
même
ce
avant la
moment-là.
première. Un
Mais
an
on ne
avant l'Open
pensait pas
d'Australie
mentalement
2014.
capable de
Ah non.
tenir pour aller gagner un grand chelem. Il avait
Voilà.
un gros revers, il était ultra puissant, mais on ne le pensait pas capable de tenir mentalement. Ce dont on
C'est
parlait
vrai.
chez les filles, c'est qu'à un moment, mentalement, il a su produire sur des matchs en 5-7, ce qui était dingue. Donc c'est vrai qu'ils peuvent nous surprendre.
Et pour cette
Ce
raison, bon, tu
match.
as parlé, Laurent, du côté quand même favori outsider. Comme tu l'as dit, il a battu Nadal et voilà, le tournoi était gagné. Ben non, il y a eu Wawrinka qui, lui, il arrive en finale. Il avait battu Roger Federer avant. Voilà, il arrive en finale contre Djokovic en étant complètement outsider. Ben, il était plus que relâché. Si vous revoyez cette finale ou des extraits de cette finale, c'était totalement dingue. Donc, si Tsitsipas parvient à jouer effectivement très relâché face à un Djokovic qui, lui, serait très nerveux de par l'enjeu du match, ça peut faire
Alors
match.
après, il y a une différence quand même, pour me contredire moi-même, c'est qu'en 2015, il n'avait encore jamais gagné Roland-Garros. Il avait ce poids-là sur les épaules.
Oui, exact.
Il fallait qu'il gagne ce tournoi qui lui manquait. Il ne lui manquait que ça en Grand Chelem. Là, ce n'est pas la même. Alors évidemment, il joue pour être le premier dans
Ah,
l'ère
quand même,
Open et le
c'est pas
troisième
rien.
après Emerson et Lever. Oui, c'est pas rien, mais la différence entre un
À n'avoir
Roland-Garros et
jamais
deux.
gagné, ouais, c'est
C'est pas
vrai.
la même qu'entre 0 et 1. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas le
Oui,
même poids, je pense
c'est
que
pas le même poids, mais
il avait vraiment une obsession dans Roland-Garros, ça le bloquait. Je pense que vraiment, il s'exprimait pas comme il pouvait le faire. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Dans l'absolu, s'il perd demain, il aura toujours gagné les 4 tournois du Grand Chelem.
il était plus à
Donc,
la recherche des 20 titres, enfin, ou au moins atteindre ce
oui,
chiffre-là. Je pense
mais
que
c'est
gagner deux
peut-être
fois sur
plus le
chaque.
19e que le deuxième Roland
Ouais.
qui pèse, parce qu'effectivement, s'il gagne dimanche, il va arriver à Wimbledon avec un Nadal qui aujourd'hui a dit que Wimbledon, honnêtement, il verrait.
Ouais,
Il
je pense qu'il
savait pas
n'est pas au
encore
top
s'il allait
physique
y
pour
aller.
l'instant.
Et un Federer qui, même s'il est potentiellement très dangereux sur gazon, n'est quand même bah, apporte pas 100% de garantie aujourd'hui. Donc, il serait vraiment archi favori Novak Djokovic de ce Wimbledon, et ce serait pour se retrouver à 20-20-20. Et s'il fait ça, alors là, on commence à faire beaucoup de prospection, je suis désolé.
Oui.
Ça veut dire qu'il va à l'US Open pour un coup double monumental, le plus extraordinaire de l'histoire du tennis, qui serait de faire le Grand Chelem calendaire et de devenir le recordman des grands chelems. Alors là,
c'est ce que je disais à des copains tout à l'heure, qui sont des pros fédéraires à mort et qui m'ont. Si j'avais été avec eux, je pense que je serais pas avec vous aujourd'hui, j'aurais été empalé. Mais je leur disais, d'ici 3 mois, Novak Djokovic peut avoir clos définitivement l'affaire du GOAT. Absolument. On n'en parle plus. Merci, au revoir. Si c'est grand chelem plus chaque grand chelem gagne deux fois, plus il passe devant 21-20-20. On n'en parle plus, ou à moins qu'il y ait une résurgence incroyable des deux autres, mais a priori, on n'en parle plus. Donc, bon, là, il ne faut pas dire ça. Hein.
On verra tout ça, on a le temps.
C'est pourtant la vérité.
Avant ça, on va pronostiquer le match de dimanche, parce que c'est celui-ci qui nous intéresse avec tout ce qu'on a dit.
Ça ne sert plus à rien, moi.
Allez, il faut.
Parce que attention, regardez. Attends, Camille, parce que quand même, il faut quand même rendre à César. Bertrand, il est quand même. Oui. Voilà, on va dire les choses. Bertrand avait pronostiqué.
On le fanfaronner 5 minutes.
Regardez le petit bras.
Il avait pronostiqué Krejcikova en 3. Il passe devant largement avec 19 points dans ce concours de pronostic. Camille et Laurent restent à 16.
Pas
3 points, il ne peut plus perdre. Il ne peut plus perdre.
On était à égalité jusqu'à.
Alors, Bertrand, tu dois prendre les risques. Bertrand, tu dois prendre des risques. C'est toi qui doit y aller.
Bien sûr que non, je ne prends pas de risque.
Alors vas-y.
Petit bras,
non,
bien sûr.
Non, il joue tout petit bras.
Bah, évidemment, maintenant j'ai trop.
La gestion des émotions sur les fins de match, Bertrand, c'est
comme au foot, un match nul me suffit. Un petit point. Donc je joue le 0-0.
Allez,
donc évidemment, donc forcément.
Titi passe en 3.
Djokovic. Allez, Djokovic en 4.
Djokovic en 4, très bien. Allez, Camille, à toi.
Moi, je vais aller sur du Djoko en 5.
Ah. Mais là, tu ne peux plus gagner, Camille, si tu fais ça.
Oui, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire ce.
Moi, je vais tenter un truc. Alors, je vais dire 104.
Voilà. Bien joué, il tente, il a raison. Il est joueur.
Il est obligé. C'est un mathématicien.
Vous êtes tellement compétiteurs, les garçons, franchement. Même pas l'amour du jeu.
Aïe. Non, en tout cas, merci. Merci. Ouais, ça va. Mais c'est bien joué quand même. Allez, merci, Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi pour recevoir les derniers épisodes directement sur votre smartphone. D'ici là, continuez à suivre l'actu sur eurosport.fr avec pas mal de papiers, de Laurent Vert notamment, de Maxime Battistella, de Bertrand Millard, de peut-être Cyril Moura encore. Je vous dis à très vite. Salut.
Salut.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.